Salut à tous, bienvenue dans L'Ordre du Monde, c'est votre nouveau podcast géopolitique de BFM Business. Je suis Mathieu Jolivet, je suis chroniqueur international sur BFM Business. Et donc chaque semaine, on va zoomer, dézoomer sur des cartes dans le monde et décrypter des alliances stratégiques. Salut Annalisa.
Salut Mathieu, moi c'est Annalisa Capellini, je suis aussi chroniqueuse internationale à BFM Business. Et cette semaine, il s'est passé plein de choses dans l'actu internationale, Mathieu, on a mille choses à vous raconter.
L'Ordre du Monde, je pense que vraiment, il n'aura jamais aussi bien porté son nom, ce nouveau podcast de BFM Business. On commence avec toi Annalisa, toi vraiment, tu as une passion pour les alliances stratégiques qui nous en disent assez long sur comment bouge notre monde qui nous entoure. Cette semaine, tu as choisi de te pencher sur le Japon et les Philippines.
Exactement, c'est un rapprochement qui est peut-être passé un peu inaperçu. On n'en a pas beaucoup entendu parler, en tout cas dans les médias francophones. Pourtant, ce rapprochement est vraiment hyper important. En fait, le Japon et les Philippines ont signé un nouveau pacte de défense. L'idée, c'est de faciliter le transfert de matériel entre les forces armées japonaises et les forces armées philippines. Donc voilà, sans aller dans le détail, ça veut dire qu'ils peuvent s'échanger des fournitures, du carburant, des services logistiques. C'est vraiment un accord très, très technique. Évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est le but. Si vous nous regardez en vidéo, vous voyez bien sur la carte que le Japon et la Philippine ont tous les deux un voisin très très encombrant, évidemment.
Ils sont juste en face de la Chine.
Exactement.
Et on voit bien sur ta carte, Annalisa, que on est vraiment au cœur de cette région hyper stratégique qui est l'Indo-Pacifique.
C'est ça. Donc la Chine qui devient de plus en plus menaçante. Donc évidemment, tous les voisins de la Chine essayent de s'allier les uns les autres et surtout de créer un peu une nouvelle organisation régionale en Asie. Depuis des décennies, la Chine est la grande puissance militaire et la grande puissance maritime en Asie. Là, ils essayent de construire quelque chose de différent. Et puis, ça consacre aussi un nouveau rôle pour le Japon sur la scène internationale. Évidemment, le Japon s'engage de plus en plus au-delà de son voisinage immédiat. Donc, les deux n'ont pas de frontières terrestres au sens classique du terme, mais effectivement, ça reste un voisin. Les Philippines restent un voisin très important pour le Japon. Donc, pourquoi pas miser là-dessus sous un prisme évidemment anti-chinois, le Japon qui se rêve en puissance militaire, mais aussi en Asie.
Et c'est passionnant ce que tu nous racontes, surtout que dans cette région, et on en parle assez régulièrement sur BFM Business, il y a une multiplication des alliances militaires. C'est vraiment the place to be quand aujourd'hui on est un chef d'état-major dans le monde. On sait très bien, les États-Unis ont fait un pivot vers l'Indo-Pacifique.
Oui.
On voit bien dans ses discours Donald Trump qui nous dit depuis le début de son mandat, moi ma priorité c'est plus l'Europe, c'est bien sûr mon hémisphère occidental, mais aussi l'Indo-Pacifique. Donc là en fait c'est encore un accord de défense de plus. Et ce qui est aussi assez dingue dans ce que tu nous racontes, c'est même dans la culture même japonaise, on voit qu'avec cette première ministre, c'est un accord de défense de plus, mais j'allais dire constitutionnellement, le Japon est une nation pacifique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
C'est... Oui, et tu as vu comment ça change ces dernières semaines, ces derniers mois. En réalité, on a entendu un discours presque belliciste, non ? On peut dire ça, je pense, de Sanae Takaishi, surtout par rapport à Taïwan, évidemment, et aux tensions en mer de Chine. Mais bien sûr, on a l'impression que ça change vraiment au Japon, et ça passe aussi par ces alliances stratégiques qu'il faut surveiller, à mon avis.
C'est vrai que c'était spectaculaire, elle avait dit au Parlement, devant le Parlement, juste après être élue nouvelle première ministre, elle avait dit « on n'hésitera pas à envoyer des troupes, les forces d'autodéfense, on appelle ça au Japon, à Taïwan, donc intervention étrangère, si Pékin fond sur l'île de Taïwan. »
Ça avait créé pas mal de problèmes avec la Chine, par ailleurs.
Elle s'est toujours pas excusée, je crois que si. Attends, oui. Je crois que Xi Jinping attend toujours des excuses.
Je crois qu'ils sont encore bien brouillés.
Je crois qu'il peut attendre longtemps.
Ouais. Bon, on passe à ton sujet, Mathieu, parce que toi, ta passion, ce sont les cartes, la géographie. Donc, tu nous emmèneras toujours dans des endroits un peu perdus, un peu méconnus sur la carte du monde. Et aujourd'hui, tu nous emmènes dans le corridor de Suwalki.
Oui, alors, un peu comme la semaine dernière, vraiment, restez avec nous, ne partez pas en courant. Le corridor de Suwalki, c'est une...
À Suwalki.
De Suwalki, exactement. C'est une petite bande de territoire qui longe la frontière entre la Pologne et la Lituanie, d'accord ? Donc imaginez une forme de route, alors c'est pas officiellement une route, mais qui fait à peu près entre 60 et 80 kilomètres. Et surtout, et c'est ça qui est hyper important, c'est que ce corridor de Suwalki, il va relier deux points hyper stratégiques. Il va relier d'un côté l'enclave de Kaliningrad, qui est à l'ouest, voilà, qui est une enclave russe. Et de l'autre côté, 80 km plus loin, la Biélorussie. Ce n'est pas la Russie, mais vous voyez, ceux qui nous regardent, il y a une carte. On n'a pas mis la même couleur rouge que la Russie, mais c'est un rouge clair, hein, parce que la Biélorussie, c'est vraiment l'allié, c'est presque comme la Russie, c'est un allié russe.
Et donc, par là que sont passées aussi les troupes russes pour envahir l'Ukraine.
Exactement, exactement. Et en fait, ce corridor, il y a un truc qui est assez fascinant et spectaculaire, c'est que, imaginez le scénario noir, le scénario catastrophe où là, il viendrait à la Russie d'envahir et de prendre contrôle de ce corridor de Suvalki. À ce moment-là, ça relierait deux territoires russes et pro-russes. Et si vous regardez bien cette carte, qu'est-ce que ça ferait comme conséquence? Ça aurait que ça couperait, ça isolerait totalement les trois pays baltes du reste de l'Europe et de l'OTAN. C'est-à-dire que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie se retrouveraient un peu comme une île avec la Russie autour et seraient coupées du reste de l'OTAN. Ça, c'est le vrai scénario noir. Alors, ce corridor, il n'a pas de statut officiel. Hein. Ce corridor, aujourd'hui, c'est un territoire qui appartient à la Pologne et à la Lituanie. C'est donc l'OTAN. Ce qui est assez dingue, et moi, c'est un endroit, mais on y consacrera plus de temps une autre fois, c'est que ces deux territoires russes et proches de la Russie qui le relient, ce corridor, il y a notamment ce fameux Kaliningrad. Kaliningrad, moi-même, je l'avais oublié, mais c'est vrai, on l'oublie facilement, mais Kaliningrad, il faut se dire que c'est où il y a aujourd'hui un petit bout de Russie qui est en Europe. Il y a petit bout de Russie qui est à l'ouest.
Il y a combien d'habitants ?
Il y a 1 million d'habitants. Il y a
Russes. C'est pas négligeable.
Il y a 1 million de Russes qui sont aujourd'hui à Kaliningrad. Kaliningrad, c'est au bord de la Baltique. C'est grand comme une petite région française. Ça a un statut de zone économique spéciale accordée par Moscou. Donc, vous avez plein d'entreprises là-bas. C'est une grande ville, mais c'est aussi et surtout un bastion militaire hyper puissant. C'est-à-dire que sur place à Kaliningrad, en Europe, hein, dans cette petite enclave russe, vous avez une partie de la flotte de la Baltique, vous avez des troupes terrestres, vous avez des missiles. Donc en fait, c'est un bastion hyper militarisé. Et autour de ce corridor de Suvalki, vous avez régulièrement des opérations militaires, des démonstrations de force, d'une part de l'OTAN, qui a renforcé sa présence là-bas, mais aussi, et ça c'était l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu une opération d'envergure entre la Russie et la Biélorussie.
Des exercices militaires, Zapad.
Ok. Et ben à l'époque, Zapad, ça avait été interprété par la Pologne comme une simulation d'une prise de contrôle de ce corridor de Suvalki.
Donc, c'est un peu le risque, ils n'ont pas tort les Polonais. Le risque.
Donc c'est un scénario noir qui est quand même envisagé par les états-majors en ce moment, c'est par là que les Russes pourraient attaquer l'Europe. Hein. C'est un scénario parmi d'autres, mais important de garder en tête ce corridor de Suvalki.
Donc à surveiller, parce que c'est par là que
voilà,
les Russes peuvent arriver.
À surveiller. Chaque semaine aussi, il y a un peu le choix, un coup de cœur ou un sujet qui nous a marqué cette semaine. Toi, cette semaine, je crois que c'est sur un podcast totalement spectaculaire.
On reste en Russie, d'ailleurs, on reste en Russie et sur les scénarios noirs, donc c'est une partie un tout petit peu angoissante.
Voilà, il faut s'accrocher à la barre.
Ouais, c'est ça. C'est l'entretien de Sergueï Karganov. C'est un proche de Vladimir Poutine. C'est un russe, un conseiller du président russe. Et il a été interviewé par Tucker Carlson, qui est un journaliste de la sphère MAGA, un youtubeur américain, journaliste, youtubeur. Et d'ailleurs, il est très, très écouté par Donald Trump. Donc, évidemment, cette interview est aussi un message direct envoyé par Donald Trump. Vous le trouvez sur les plateformes de podcast.
Juste pour se faire une idée du bonhomme, je crois qu'il a réussi le tour de force de se faire virer de Fox News.
Exactement, parce qu'il était trop radical, en effet. Donc, vous imaginez un peu le personnage. Mais cet entretien est vraiment très intéressant parce que ça nous explique la vision des Russes sur l'Europe en ce moment. Donc Karaganov dit que l'Europe est l'ennemi de l'humanité, que l'Europe est la source de tous les maux que les Européens ont causés finalement de guerre mondiale, que l'Europe est corrompue en totale déliquescence. Et il répète plusieurs fois ça, il insiste là-dessus, hein. Il reste quelques bons Européens, il en reste quelques-uns, mais c'est une exception puisque la plupart des Européens sont des ratés. Alors, lui, il a ce concept, effectivement, de l'Europe qui dégringole, qui est vraiment...
Déliquescence.
Ouais, exactement. C'est vraiment un discours très, très décliniste. Mais attention, pas seulement en réalité, il nous menace aussi très directement. Il dit « J'espère qu'on ne sera pas obligé en tant que Russes de frapper l'Europe directement. Sinon, on va tout simplement les détruire. Ils n'ont plus de force militaire à proprement parler. »
Mais les détruire surtout avec l'arme nucléaire.
Avec l'arme nucléaire. Et alors, tu sais sur quel pays ? Parce qu'il désigne très clairement les pays par lesquels il faut commencer à frapper.
Des frappes nucléaires.
Ouais, tu sais quel pays ? L'Allemagne et le Royaume-Uni. Ah, donc, ouais. Pour une fois, ce n'est pas la France, mais c'est pas loin. Et ce qu'il nous dit aussi, et ça c'est très inquiétant, moi j'ai trouvé ça très inquiétant, il dit on sait désormais que les États-Unis ne répondront pas. Donc si on frappe l'Europe, et là il parle de frapper la Pologne et de frapper Poznan, bah, les États-Unis ne répondront pas.
C'est totalement sidérant. Voilà. Après, il faut quand même. C'est un idéologue radical, c'est un proche de Vladimir Poutine.
Il y a un peu de théâtre dans cette histoire, voilà, évidemment.
J'imagine qu'on est aussi sur la guerre psychologique, j'imagine qu'on est aussi dans une communication de la terreur. Là, c'est passionnant ce que tu nous montres, c'est un document de propagande qui vise à terroriser. Ceux qui l'écoutent.
Mais qui vise aussi à dire aux Américains, attention, on n'est plus du tout en guerre contre vous. Et d'ailleurs, il le dit clairement, nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine non plus, Zelensky et consorts, c'est pas ça. On est en guerre contre l'Europe. Donc l'ennemi, ce ne sont plus les États-Unis, c'est même plus vraiment l'Ukraine finalement. Cette guerre va se terminer, pas se terminer. Il est persuadé évidemment que la Russie va gagner. Le vrai ennemi, ce sont les Européens. Donc voilà, ça c'est un entretien à ne pas oublier ces prochains mois quand on analyse les rapprochements entre Trump et Poutine. La stratégie, c'est celle-là quand même.
Et il y a un point que je trouve super glaçant dans ce que tu racontes, c'est que finalement, ça fait aussi écho parce que ton Karaganov, il parle de la déliquescence européenne, etc. Le lit de l'humanité. Mais en fait, quand vous regardez le document, la revue de sécurité nationale publiée par Donald Trump à la Maison-Blanche, sur l'Europe, il parle de risque d'effacement civilisationnel.
Ah oui, le constat est le même, c'est ça qui est inquiétant.
Donc en fait, il y a un constat sur une Europe qui part totalement en vrille, qui finalement, avec des mots différents, se rapproche de ce radical idéologue russe, de ce qu'il y a dans le document officiel de la Maison-Blanche.
Je suis d'accord avec toi. Et Mathieu, en parlant d'idéologue, toi tu nous parles de l'homme qui a soufflé à l'oreille de Donald Trump son obsession sur le Groenland.
Ouais, c'est ça. En fait, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Ronald Lauder. T'en as déjà entendu parler ou pas ?
Non.
Ronald Lauder, en fait, c'est pas n'importe qui, c'est l'héritier de l'empire des cosmétiques américains.
Ah, bien sûr,
Estée Lauder, voilà. Lui, c'est l'héritier. Il est milliardaire. Ils se connaissent hyper bien avec Donald Trump depuis plus de 60 ans. Ils étaient dans la même université dans les années 60, la Wharton University en Pennsylvanie. Et en fait, en 2018, pendant le premier mandat de Donald Trump, Ronald Lauder est le milliardaire qui lui a soufflé l'idée de racheter le Groenland en vantant notamment à l'époque le potentiel, bien sûr, géostratégique avec les côtes arctiques russes en face, mais aussi le potentiel économique. Et Donald Trump l'a pris très au sérieux. À l'époque, c'était secret, c'était absolument pas public, et il a fait plancher très discrètement en 2018 une équipe de la Maison-Blanche sur des scénarios pour acheter le Groenland.
Ah oui. Voici une personne que Donald Trump écoute.
Voilà, exactement, son ami Ronald Lauder. Et à l'époque, il y avait un des scénarios qui consistait à préparer un peu comme un bon promoteur à New York, un bail pour récupérer un titre de propriété sur le Groenland. Et quand ça avait été rendu public, ça avait eu un tollé, ça avait provoqué une avalanche de moqueries. On n'en avait plus trop parlé, et aujourd'hui, on voit bien à quel point, en fait, il faut prendre le sujet sérieusement, parce qu'il est passé à l'acte et il veut toujours le Groenland, et donc on a un accord qui va se dessiner où ce ne sera pas une prise de contrôle totale, etc. Mais avec une présence américaine qui va se renforcer au Groenland.
Finalement, ça ressemble à de la location. Quand tu parles du bail...
Ça ressemble à une forme de location. Mais ce qui est hyper intéressant derrière, c'est que ce profil de Ronald Lauder, c'est qu'on voit à quel point les intérêts privés se mêlent à des intérêts diplomatique et géostratégique. Et ça, c'est toujours assez fascinant. Il faut voir que ce Ronald Lauder, il a déjà investi, il aurait en fait, selon des enquêtes de la presse américaine, investi dans des projets au Groenland. Il a investi, il aurait pris une participation dans Greenland Water Bank, c'est une société groenlandaise qui exploite une eau de source hyper pure, et lui, il veut en faire une eau minérale de luxe à exporter aux États-Unis. Il a aussi investi dans Greenland Investment Group, ça c'est un projet de construction d'une centrale hydroélectrique. Il faut bien voir que ce potentiel économique au Groenland, il est assez dingue, et même le premier ministre groenlandais, Frédéric Nielsen, était venu au Parlement européen en octobre dire aux députés européens, venez investir chez nous, dans notre sous-sol, on a 24 des 34 minéraux critiques dont vous avez besoin pour votre défense, votre transition énergétique, etc.
Bah, ça illustre bien la vision de Donald Trump où, de toute façon, les intérêts privés, ces intérêts particuliers, le business, se mélangent toujours à la géopolitique. On a vraiment l'impression que c'est... Il n'y a plus de grands discours, de valeurs historiques.
C'est complètement décomplexé. Et ça s'est vu aussi en Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est bien que sûr. Ronald Loder... Moi, je l'ai découvert en Ukraine parce qu'il aurait aussi investi dans une entreprise qui s'appelle TechMet, qui est spécialisée dans les métaux critiques et qui est sur des appels d'offres actuellement pour exploiter les sous-sols du Donbass très riche dans les minéraux critiques. Donc, en fait, Ronald Loder au Groenland, il n'est pas en premier plan, il n'est pas connu, c'est un petit investisseur qui a des intérêts privés, mais il fait partie de cet écosystème où là, on en reparlera peut-être, mais il y a une autre tête chercheuse de Donald Trump qui est là-bas, qui s'appelle Tom Dance, lui, et qui est quelqu'un qui est beaucoup au Groenland depuis un an et qui établit une sorte d'audit sur les potentiels économiques et d'exploitation au Groenland. Et c'est un peu lui qui est en train de constituer cet écosystème d'entreprises américaines qui pourraient venir exploiter le potentiel économique du Groenland. Donc voilà, deux noms à suivre, Tom Dance et Ronald Loder.
Tu sais, aux États-Unis, il y a un autre nom à suivre, à mon avis, et c'est ce que je surveille, moi, pour ces prochains jours, c'est Steve Bannon.
Ah, bien sûr.
Steve Bannon, grand idéologue du mouvement MAGA, il est effectivement un grand personnage de cet univers trumpien, et il y a des proches de Steve Bannon qui disent qu'il est en train de commencer à préparer le terrain pour être candidat à la Maison Blanche
en 2028.
Mais lui,
c'est l'idéologue plus.
Ah oui, lui, vraiment, c'est un immense personnage. Et voilà, on dit effectivement, on l'appelle le parrain du mouvement MAGA. On dit que ça ne serait pas tant une candidature sérieuse, il ne chercherait pas vraiment à devenir président, mais il veut surtout influencer le débat, peser dans le débat, mettre son nom. Et en même temps, on sait que Donald Trump non plus ne pensait peut-être pas devenir président. Et puis, here we are.
Ok.
8 ans après.
À surveiller.
Donc voilà.
Je crois que Steve Bannon avait une énorme responsabilité dans la prise du Capitole.
Ah oui, Steve Bannon est un grand idéologue qui fomente aussi des courants un petit peu radicaux dans le mouvement MAGA. Donc voilà, moi je vous dis, surveillez bien Steve Bannon, regardez bien ses réseaux sociaux, regardez bien ce qu'il dit, ses prises de parole. Et toi, tu surveilles quoi ?
À surveiller de près. Moi, ce que je vais surveiller, Annalisa, c'est... Alors, j'ai vu que lundi prochain, il allait y avoir une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est que l'objet de cette réunion paraît aujourd'hui complètement folle. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une réunion sur le renforcement du multilatéralisme. Et en fait, il y a encore quelques semaines, cet objet-là aurait été totalement banal. Et aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je vais surveiller ce que va dire l'ONU lundi prochain. C'est qu'aujourd'hui, en fait, l'ONU et ce concept du multilatéralisme est tellement percuté de manière violente par Trump, sa doctrine Monroe, sa doctrine hémisphérique qui vise à changer totalement, à créer un nouvel ordre mondial avec plusieurs hémisphères, à la tête de chaque hémisphère, un shérif, et remplacer l'ONU par un conseil de paix où finalement ça voudrait dire que chaque année il n'y a plus d'assemblée générale de l'ONU, mais un conseil hémisphérique où tous les shérifs se retrouveraient, en gros, c'est ça son conseil de paix, et bien ça vise un peu à tuer l'ONU. Donc en fait, moi je vais surveiller avec attention comment, dans cette période si délicate, l'ONU va se défendre et comment l'ONU va essayer de faire subsister quand même ce concept de multilatéralisme qui, peut-être, je ne sais pas, vit ces dernières heures. On ne sait pas.
Qui est en danger, en tout cas, ouais. Alors, tu nous en diras des nouvelles la semaine prochaine ?
Avec grand plaisir.
Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, toujours jeudi, sur toutes les plateformes de podcast, sur notre site, bien sûr, BFM, et puis sur l'appli, évidemment, si vous êtes appli. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit like sur le podcast, sur vos plateformes, et puis n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez, ça nous intéresse toujours.
Ah oui, absolument. Si vous avez des questions, on va les noter, on va faire notre to-do list aussi, on va essayer de vous répondre, parce que nous aussi, on est passionnés par cette géopolitique, on veut apprendre en même temps que vous, et puis voilà, on espère que ça vous plaît. L'ordre du monde, c'est votre nouveau podcast géopolitique. Salut Annalisa, à la semaine prochaine.
Salut Mathieu, à la semaine prochaine.
Salut à tous.